Ensemble, colonisons.
L'amour.
La tolérance.
La bienveillance.
Radio Esperanza.
Bien le bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices, où que vous soyez. Nous sommes le samedi matin, quelques mois avant le départ d'Esperanza, j'allais dire de Radio Esperanza, mais donc bienvenue sur Radio Esperanza, la radio éphémère du festival du même nom qui s'ouvre et se ferme pendant le festival. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes quelques mois avant le festival, donc ici, en l'occurrence, nous sommes à Run Radio à Namur. En ce grand matin, autour de la table, ben, une petite partie de l'équipe de Radio Esperanza est autour de moi. Bonjour Guillaume.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Comment vas-tu ?
Je vais très bien.
Magnifique.
Il fait très beau, comme tu l'as très bien dit, et ça me ravit.
Oui, ça fait quelques jours d'ailleurs qu'il fait beau. Enfin, finalement. À ma droite, bonjour Sarah.
Bonjour.
Et toi, comment vas-tu ?
Ah, très bien, je suis très contente d'être venue ici, avec les trains, le soleil. Après, ça sera mon vélo, donc c'est une bonne journée.
Et tu es accompagnée aussi ce matin par une autre membre de l'équipe. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien aussi.
Et on n'oublie pas surtout Dimitri qui est derrière à la technique, le magicien de Radio Esperanza.
Donc, oui, bonjour de sa part.
Il n'a pas de micro, le pauvre. Donc oui, comme je vous l'ai dit, c'est aussi pour faire connaissance avec les différents acteurs du festival, qu'ils soient dans l'organisation même ou participants actifs. Et en ce matin, j'ai en face de moi Manon. Bonjour Manon.
Bonjour.
Alors toi, tu représentes une association qui sera présente tout au long du festival sur le Village des Possibles. De quelle association s'agit-il ? Dis-moi tout.
Donc je représente l'association belgo-palestinienne, qui est une association qui est née en 1975 et qui est à la base un mouvement de solidarité. C'est un peu les amitiés belges, du peuple belge avec le peuple palestinien, qui est née dans les mouvements syndicalistes, décoloniales, dans ces années-là, dans les années 70. Et puis qui a grandi. Et aujourd'hui, on est une association d'éducation permanente et donc on travaille à sensibiliser, à faire du plaidoyer autour de la question palestinienne, autour des droits des Palestiniens, pour leur autodétermination et pour leur respect de leurs droits. Qu'est-ce que ça veut dire quotidiennement, dans notre travail quotidien hors génocide ? On fait pas mal de conférences, on organise on va dans les écoles, on organise des journées à thème, des cycles de formation. Voilà, on essaye de rester présent sur la question palestinienne et de garder aussi la question à l'agenda des politiques en faisant du plaidoyer constant, quotidien, et en mettant un peu la pression au niveau des politiques pour qu'ils gardent cette question à leur agenda. Et pendant le génocide, on est aussi. Du coup, depuis octobre, on est très occupé à l'organisation de manifestations qui sont très urgentes, qui sont plus que nécessaires, et aussi à faire du plaidoyer, à jamais s'arrêter. Là, on est la veille des élections, pour tout vous dire, et donc on a aussi beaucoup travaillé sur les élections, à poser des questions aux partis, à faire en sorte que la Palestine soit dans leur programme de manière plutôt favorable. Ce qui n'est pas le cas de tous les partis, mais pas mal.
Mais donc, c'est ça, au-delà de la thématique d'éducation permanente, vous avez quand même un travail de fond derrière en relation directe avec les politiques qui sont présentes ici en Belgique.
Oui, on fait beaucoup de rencontres avec les partis, avec les cabinets ministériels. On a rencontré notamment Alexander De Croo courant novembre. On a rencontré Hajja Labib, la ministre des Affaires étrangères. Voilà, on essaye de les garder au point, surtout, c'est ça la question, et de les tenir au courant de quelles sont nos revendications. Les revendications que nous, on essaye de porter, c'est de porter simplement celles du peuple palestinien et de nos partenaires en Palestine.
Mais moi, ça me rend curieux justement un petit peu sur le rôle de la Belgique, en fait. Qu'est-ce que la Belgique a comme rôle envers la Palestine et vice-versa, en fait, qu'est-ce qui se joue
Quel rôle a-t-on ou quel rôle devrait-on prendre?
Les deux questions sont hyper pertinentes, je trouve.
Le rôle que choisit de prendre la Belgique, en tout cas sous Hajja Labib en tant que ministre des Affaires étrangères, c'est le rôle de « like-minded », qui veut dire qu'elle essaye de garder un lien entre les deux parties. Elle essaye de pouvoir communiquer avec les deux, ce qui veut dire qu'elle va refuser, par exemple, de sanctionner Israël concrètement. Bon, la Belgique a pris des mesures exemplaires au niveau européen. On est le meilleur pays depuis octobre en termes de sanctions. On a fait pas mal de choses. On a gardé notre financement. Dites-moi si c'est trop technique, hein, et vous comprenez.
Non, okay. Moi, je trouve ça très bien.
Non, okay. Non, c'est très bien, au contraire.
On a gardé notre financement à l'UNRWA alors que Israël... Israël accusait l'UNRWA, enfin des membres, des employés de l'UNRWA d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. Donc il y a beaucoup de pays qui ont coupé tout leur financement à l'UNRWA. Et la Belgique les a gardés et a même parlé de les doubler, ce qui est exceptionnel.
Tu peux définir ce qu'est
l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Donc elle est née au lendemain de 1948 avec l'idée que du coup, la guerre de 1948... La création de l'État d'Israël a créé énormément de réfugiés palestiniens et donc, donc des camps de réfugiés, autant en Palestine que dans les pays alentours. On en a en Jordanie, en Syrie, au Liban. Et donc cette agence est née avec l'idée d'apporter une aide de première nécessité à ces réfugiés et aussi ça inclut le droit au retour des réfugiés palestiniens parce que c'est un droit qui est reconnu par les Nations Unies. C'est le fait que les réfugiés palestiniens ont droit à un retour, donc à revenir sur leur terre. Et donc l'UNRWA, c'est aussi conserver ce droit-là au retour qui est très important pour les Palestiniens, surtout les réfugiés. Et l'UNRWA, c'est aussi un substitut du gouvernement. L'UNRWA, c'est beaucoup d'écoles, des hôpitaux, c'est fournir de l'aide alimentaire directe. Et avant 7 octobre, 90% de la population à Gaza dépendait de l'UNRWA pour se nourrir. Donc l'UNRWA, c'est vraiment une agence qui est essentielle et qui fournit qui fournit des services de base. Et donc tous ces pays, notamment les États-Unis, l'Allemagne, qui coupent leurs fonds, c'est une réelle tragédie, surtout en ces moments où l'UNRWA, le budget devrait être triplé, quadruplé. Il n'y aura jamais assez d'argent pour Gaza en ce moment. Et donc, de couper ces fonds, c'est une réelle tragédie, surtout que c'est fait sur la base d'accusations qui sont fallacieuses. Israël a accusé 12 employés de l'UNRWA, alors que l'UNRWA en compte plus de 36 000 à vérifier, mais... a accusé 12 employés d'avoir participé aux attaques du 7 octobre sans aucune preuve, sans rien, et pourtant des dizaines de pays ont coupé leurs vivres. Donc le fait que la Belgique garde ses fonds, c'est essentiel. La Belgique a aussi augmenté son budget de 5 millions vers la Cour pénale internationale pour qu'elle puisse faire ses enquêtes. Par contre, la Cour pénale internationale, quand on lui offre du budget, enfin quand on lui donne des subsides, on ne choisit pas le dossier sur lequel ça va l'aider, mais l'acte symbolique est là. Et on a aussi pris des sanctions envers les colons violents qui sont interdits de rentrer en territoire belge. Bon, c'est une mesure un peu effet d'annonce parce que qu'est-ce qu'un colon violent ? Est-ce qu'un colon non violent existe ? Comment c'est mis en place ? Comment eux définissent ce qu'est un colon violent ? Mais le fait est que symboliquement, c'est important. Mais Adjalabib insiste sur le fait qu'elle ne peut pas en faire plus, entre guillemets, comme reconnaître par exemple l'État de Palestine. La Belgique ne l'a pas fait alors que plusieurs États, ces dernières semaines, l'ont fait, des États européens. Ouais. La position de la Belgique était que on reconnaîtra la Palestine en temps voulu, en temps opportun. C'est-à-dire que donc, ce qui était dans l'accord de gouvernement, c'était qu'une fois que plusieurs pays européens s'y mettraient, on suivrait. Là, c'est le cas et on ne suit pas parce qu'on a peur justement que, de ne plus être pas un partenaire privilégié, mais de plus être un interlocuteur aux yeux d'Israël. Par ailleurs, on a vu qu'Israël avait renvoyé l'ambassadeur espagnol ou rappelé l'ambassadeur espagnol suite à la reconnaissance de l'État de Palestine par l'Espagne. Donc, c'est peut-être un argument qui est entendable de la part de la ministre, mais ce n'est pas normal de se faire dicter son agenda par l'oppresseur et par le pays qui est en train de commettre un génocide.
Non, vas-y, tu voulais poser une question.
Oui, mais vas-y, je t'en prie.
Ben moi, en fait, je voulais savoir en fait, quelles sont les décisions que vous avez envie qu'elles soient prises aujourd'hui pour faire changer les choses.
Alors, suite au 7 octobre, on a créé une coalition. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est dit que c'est la société belge dans sa globalité qui était touchée par ce qui se passait et qui devait agir. Et ce n'était pas seulement l'association belgo-palestinienne, les mouvements pro-palestiniens. Et donc, on a fait une coalition avec plus de 60 organisations, des syndicats, le CNCD 1111, Elvelvel du côté flamand. On a beaucoup de syndicats, la FGTB, la CSC, Beweging Net du côté flamand. Nos revendications avec la coalition, en tout cas, c'est de dire qu'il faut réviser d'une part l'accord d'association Union européenne-Israël, qui permet des tarifs préférentiels économiques, mais c'est aussi, c'est pas que sur le volet économique, cet accord d'association, c'est aussi au niveau diplomatique, politique, culturel. Et donc, cet accord d'association a, dans son article 2, une clause sur le respect des droits humains, qu'Israël ne respecte pas. Et donc, on demande la révision d'une part de cet accord d'association. On demande évidemment un embargo militaire international complet. La Belgique, depuis 2009, n'exporte plus d'armes à Israël dans la théorie, mais en pratique, ça arrive encore. On a vu que grâce au travail des associations comme la CNAPD, Amnesty, et Vrede Zaxi, qui ont travaillé sur justement documenter les transits et les exportations d'armes depuis le 7 octobre. On a vu qu'il y a plus de 70 tonnes de poudre à canon qui ont transité depuis l'aéroport de Birzeh vers Israël. Et ça, c'est pas OK. Et en fait, les pouvoirs se renvoient la balle parce que c'est des compétences régionales et c'est pas le fédéral. Et puis, c'est le SPF mobilité, non, c'est le SPF économie. Enfin, ils se renvoient tous la balle, mais on voit qu'il n'y a pas, en tout cas, une volonté politique forte dans l'embargo militaire. Et ça, c'est catastrophique quand on voit que voilà, 70 millions de tonnes, c'est énorme. 70 tonnes, pardon.
ça fait beaucoup plus.
70 tonnes, c'est énorme. Et cette poudre à canon, elle est directement... elle est à destination de IMI, qui est une filiale de l'entreprise Elbit Systems, qui est la première productrice d'armes à munitions pour l'armée israélienne. Donc on est sûr d'où ça va, on sait ce que ça fait. Et donc ça, c'est une des mesures aussi qui est essentielle et qui aurait dû être prise bien avant. Et on a vu que Elodie Rupo a... oui, ce sera diffusé hors campagne, donc je peux. Elodie Rupo a interdit tous les transits d'armes à 2 semaines des élections, alors que la sonnette d'alarme avait déjà été tirée par les associations dès novembre. Et en novembre, ça avait été laissé comme ça. Et on voit qu'à 2 semaines des élections, c'est un peu dommage d'attendre 8 mois pour vraiment stopper, pour être plus vigilant sur ces transits d'armes. Qu'est-ce qu'on demande aussi au nom de l'AVP, c'est aussi de vérifier les soldats belgo-israéliens qui seraient dans l'armée, qui seraient potentiellement en train de commettre des crimes de guerre et potentiellement les afficher clairement sur les réseaux sociaux. J'ai plus exactement en tête. Et aussi, évidemment, soutenir les demandes de la CPI, de la Cour pénale internationale, et soutenir l'Afrique du Sud dans sa requête pour génocide à la Cour internationale de justice, ce que la Belgique a semblé faire. Et on demande évidemment l'interdiction des produits des colonies. Mais ça, c'est pas une sanction. Encore une fois, c'est juste se conformer au droit international. Et on demande cette mesure depuis des années.
François, tu voulais poser une question tout à l'heure ?
Oui, oui. Mais on a passé le sujet et c'est pas vraiment une question, j'étais un peu curieux. Donc je vais peut-être laisser la parole à Sarah.
Bon, parce que là tu nous as parlé de ce qu'on souhaite ou qu'on demande. Et tu as des exemples aussi de ce qu'on a réussi au moins depuis le 7 octobre ou avant aussi, si tu veux.
Ouais. Déjà, on a réussi à ce que la Belgique appelle un cessez-le-feu assez rapidement. C'est-à-dire que le 27 octobre, à l'ONU, on a voté pour la résolution de la Jordanie qui demandait un cessez-le-feu, qui demandait un accès sans entrave à l'aide humanitaire. Et ça paraît fou, mais c'était une avancée parce qu'en octobre, il n'y avait pas tant de pays qui demandaient un cessez-le-feu. Ces victoires de l'UNRWA, c'est une vraie victoire qui est concrète parce que sur le terrain, du coup, ça agit. On a aussi fait du airdrop de colis alimentaires. Bon, ça, c'est une question qui est assez... sur laquelle on peut discuter parce que ça peut être reçu très mal. Par exemple, je vois beaucoup de Palestiniens qui se sentent comme des chiens, simplement, de recevoir de la nourriture par les airs, comme ça. Qui regardent sur le ciel, ils savent pas si ça va être une bombe ou un colis alimentaire. Ça a aussi tué des gens, les colis alimentaires, parce que c'est des paquets qui font 1000 kilos et ça arrive que ça tombe sur des gens, que ça tombe dans la mer. Il y en a aussi qui sont tombés dans les colonies israéliennes. Donc ça, c'est clairement... Et puis c'est aussi... les pays affichent fièrement un drapeau quand ils font tomber un colis, donc ça pose aussi question. Le fait est qu'on l'a fait, bon, mais voilà, ça porte à débat. Et puis les colons violents, c'est aussi symbolique, mais c'est important de montrer à Israël qu'on prend quand même des actions. Mais voilà, la position de la Belgique est de dire qu'on ne va pas prendre d'actions plus concrètes que ça parce qu'on veut rester un interlocuteur et on veut faire une conférence de paix pour réfléchir à un plan de paix. Qu'en pensez ?
Oui, moi je voulais justement poser la question, quelle est la pertinence de garder un dialogue avec Israël si en fait ils ne nous écoutent pas ?
Pour moi, il n'y en a pas. Mais, et puis surtout, on ne discute pas. Ils se laissent dicter. En fait, beaucoup de pays se laissent dicter leur agenda par l'oppresseur et par le pays qui est en train de commettre un génocide, ce qui est complètement dingue. On voit le deux poids, deux mesures dont jouit Israël, qui n'est par exemple pas, qui n'a pas été le cas pour la Russie. Bon, on est évidemment dans des contextes très différents, mais tout de même, il y a un agresseur, un agressé. Il y a des droits qui sont bafoués depuis 75 ans. Et donc, c'était quoi la question ?
La communication. Quelle est la pertinence d'avoir une communication avec...
L'idée des libéraux, en tout cas, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent faire avancer quelque chose. Moi, j'ai pas l'impression que dans les faits, ça fasse avancer quoi que ce soit. J'ai pas l'impression que Netanyahou écoute plus Hadjalabi parce qu'elle a pas reconnu l'État de Palestine, pour être concrète. On a posé 10 questions à chaque partie et les libéraux sont les seuls à répondre non à toutes les questions, y compris au soutien de la société civile palestinienne. Ils confondent la société civile et le Hamas. De l'autre part, on a Caroline Jeunet, qui est notre ministre de la coopération et développement, qui elle est de Voreuth et qui elle appelle à de vraies sanctions, va beaucoup plus loin que Hadja Labib. Donc on sent aussi que c'est toutes les tensions internes à la Belgique qui font que notre position n'est pas optimale et parce que peut-être que c'est pas la bonne personne au bon endroit en ce moment au niveau du ministère des Affaires étrangères. Mais à voir ce qui va nous attendre dans les prochains mois.
Oui, tout à fait. Maintenant, pour aborder l'idée d'une manière un peu plus générale, couper la communication signifie couper toute forme d'avancée aussi parfois. C'est pas en étant ferme et en étant imperméable que les choses vont avancer non plus. Donc pour moi, tout canot d'intervention ou de communication sont bons à prendre finalement, qu'il soit autant, parce que là on est plus en train de parler politique, mais au sein même de la population. Je veux dire, tout intervenant, qu'il soit israélien, palestinien, peu importe, autant établir un lien de communication, du moins un canal qui est disponible, qui est là, qui est présent, même si ça n'aboutit à rien, pourquoi pas ?
Oui, mais là, quand on est, en tout cas, à un niveau politique, son devoir, c'est surtout de dire, enfin, il y a des conventions, il y a des traités, il y a, par exemple, la convention de prévention sur le génocide qui appelle à prendre des actes, qui appelle, en fait, chaque citoyen et qui responsabilise chaque citoyen, chaque citoyenne à tout faire pour empêcher un génocide de se passer. Et donc, quand on est ministre des Affaires étrangères, j'imagine que le devoir est double. Mais effectivement, le dialogue, ok, mais quand on a en face quelqu'un qui est sourd à tout dialogue, tant qu'on va pas dans son sens, je vois pas l'intérêt. Mais bon, je ne suis pas politicienne, moi, je précise, à l'AVP, je suis chargée de mobilisation et de campagne et pas du tout de plaidoyer, donc le plaidoyer, ce n'est pas tellement mes questions. Mais voilà, j'estime qu'en tout cas, il faut parler avec fermeté si on veut parler avec Netanyahou et pas lui faire sentir que ses décisions peuvent nous faire peur, ses décisions peuvent influencer sur la manière dont nous, on perçoit les choses, parce que ça, ce n'est pas OK du tout.
Ben, merci beaucoup pour ta réponse. Je vais changer un poil de sujet. Je voulais justement demander ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour prendre part et avoir une action concrète.
Alors, on appelle évidemment au boycott que ce soit des produits israéliens, mais aussi le mouvement BDS. En fait, on s'inscrit dans le mouvement BDS, qui est un mouvement qui est initié par la société palestinienne, qui a été lancé en 2005 sur le modèle de l'Afrique du Sud, où c'est effectivement le boycott international qui a permis, avec le reste évidemment de la lutte, de faire tomber le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et donc c'est sur cette base que se base le mouvement du boycott. Donc on appelle à boycotter, désinvestir et sanctionner les entreprises qui sont coupables ou complices de violations des droits des Palestiniens. Donc je vous invite à vous renseigner sur la campagne boycott qui appelle, elle, à un boycott ciblé, parce qu'on peut voir des listes interminables de marques à boycotter. Qui sont pas réalistes, en fait, parce qu'on peut pas tout boycotter. C'est pas possible de demander à tout le monde de tout boycotter et ça ne donne pas un boycott qui soit efficace. Mais il y a 6 à 10 marques que le mouvement appelle à boycotter. Donc on a Carrefour, par exemple, qui a des magasins dans les colonies israéliennes. On a AXA, qui investit énormément aussi. On a BNP Paribas. Beaucoup de grandes banques, en fait, évidemment. Il y a aussi Siemens, il y a Puma. Voilà, il y a une dizaine de marques comme ça qu'on appelle à boycotter et à interpeller et à écrire aux dirigeants de Carrefour. Donc, ce n'est pas juste ne plus aller chez Carrefour, mais c'est aussi discuter avec Carrefour, vous, votre Carrefour à côté de chez vous, de lui dire pourquoi vous ne vous y rendez plus, d'envoyer des lettres, de mettre la pression, en fait. Donc ça, c'est une partie du mouvement de boycott. Mais il y a aussi, pour moi, simplement s'informer. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, qu'est-ce qui fait que la Palestine n'était plus sexy il y a un an ? Parce que là, elle est redevenue, mais il y a encore quelques mois. Il y a un an, quand j'ai été embauchée à l'ABP, on m'a dit « Mais t'es folle, pourquoi la Palestine ? C'est foutu, ça fait 70 ans que ça dure. » Moi, je pense que c'est le manque de connaissances. C'est effectivement le fait que ça fait 70 ans et le fait que les gens ne s'y intéressent plus parce que c'est une ancienne question. Et c'est là où nous, en tant que citoyens et citoyennes, on a un pouvoir, c'est de dire « Ok, je vais m'informer à fond et je vais devenir un ambassadeur ou une ambassadrice pour pouvoir avoir des argumentaires, pour pouvoir répondre aux gens, pour pouvoir simplement informer. » Parce qu'on remarque qu'il y a un grand, grand manque de connaissances, des amalgames, enfin, tout est mélangé sur la question palestinienne. Et c'est pour ça aussi que les avis sont parfois ahurissants. C'est parce que les bases ne sont simplement pas là. Et donc, en devenant un ambassadeur, entre guillemets, de la Palestine, je pense que c'est aussi une manière importante de militer. Et puis, il y a tellement d'actes qu'on peut faire au quotidien. Pour moi, porter un kéfier, que j'ai d'ailleurs oublié aujourd'hui, c'est militer, c'est vous rendre évidemment en manif et c'est interpeller vos politiques, vos politiciens, surtout en ce moment en période électorale et puis encore les élections qui arrivent communales en octobre, de continuer à interpeller et de faire bouger à ce niveau-là vos propres élus. Voilà.
Et je paraphrase justement parce que il y avait Antonio Guterres qui avait dit plus qu'une crise humanitaire, c'est une crise de l'humanité. Et donc ça fait un peu écho à ce que tu dis. Et merci d'ailleurs pour les pistes que tu nous donnes. Moi, j'ai une question qui est plus personnelle, en fait, c'est comment toi, tu te sens dans tout ça? Comment on fait pour se lever le matin quand on fait partie d'un acte militant aussi important? Et peut-être au sein de l'ABP, comment vous discutez, les conversations que vous avez sur votre état personnel?
On mange beaucoup, on mange beaucoup de sucreries, ça nous aide. Ouais, c'est pas toujours simple. Mais comment on fait pour se lever le matin? J'avoue que parfois c'est très compliqué, et puis il y a parfois où t'as pas le choix et tu dis ok, aujourd'hui c'est pas possible pour moi de venir au travail, et il faut l'accepter. Parce que ça fait huit mois que ça s'arrête pas et qu'en fait on a la tête partout et nulle part à la fois. Et donc ça, c'est une part très frustrante de mon côté, c'est que j'ai l'impression de pas avoir été efficace forcément sur le fond, ni d'avoir été là où je devais, parce qu'en fait à l'ABP on est que 2,5 permanents en tout cas. On a des bénévoles, mais on trouve même pas forcément le temps toujours de s'organiser avec les bénévoles. Et donc ça, c'est vraiment épuisant, c'est d'être partout et nulle part, et de surtout voir que la situation sur le terrain ne s'améliore pas, et que peu importe l'énergie que nous on peut mettre et ici décrocher des victoires au niveau belge, on peut en être très fiers, mais dans le fond sur le terrain ça change rien, la petite Belgique au niveau mondial. Et puis c'est aussi de voir, enfin c'est Mahmoud Darwish, donc un poète palestinien, qui disait je n'ai pas le luxe du désespoir, et ça résume tout. Et nous en tant qu'alliés ici en Belgique, on n'a pas le luxe de pouvoir s'arrêter, mais c'est clair que il faut pouvoir aussi penser à soi et parfois ralentir pour pouvoir justement être plus efficace. Mais cet équilibre là n'est pas toujours facile à trouver. C'est aussi l'équilibre vie professionnelle et vie privée qui peut être parfois très difficile à trouver, et ne pas embarquer notre famille parfois là-dedans, ça peut être aussi on peut marcher sur des œufs.
Mmh. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça, pour ton témoignage, c'est vraiment précieux. Je me permets de revenir peut-être sur les actions qui vont être menées au sein d'Esperanza et au sein des Villages des Possibles. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en tant que festivalier, festivalière, si on vous rend visite au sein du Village des Possibles?
Alors, on est en train justement de construire, mais encore une fois, avec ces mois qui ont été tumultueux, ça a été, enfin voilà, on est sur la construction des festivals de cet été et du coup d'Esperanza. On est en train de mettre au point du coup une caravane. L'idée est que en entrant dans cette caravane, on puisse faire un espèce de voyage en Palestine. Le thème sera du coup autour du colonialisme et de comprendre qu'est-ce que le colonialisme, comment ça a démarré, qu'est-ce que ça inclut et comment il est représenté encore aujourd'hui. Et surtout autour de la Nakba aussi. Donc la Nakba, ça signifie catastrophe en arabe, et ça marque le moment en 1948 où plus de 750 000 Palestiniens ont été chassés de chez eux et ont donc été forcés à l'exode. Et c'est une Nakba continue, parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, en 2024, il y a encore des millions de Palestiniens qui sont forcés de se déplacer. Et donc, ça va aussi être autour de la Nakba, de ce moment où ils ont dû quitter leur maison avec ce symbole qui est la clé, qui est encore une fois la clé au retour auquel on faisait référence, du droit au retour auquel on faisait référence tantôt. Donc, d'une part, il y aura ça. Il y aura aussi des activités sur notre stand, un casque de réalité virtuelle pour être en Palestine. Il y aura aussi des animations autour de l'historique et de tout ce que, voilà, de où ça a démarré, de où on en est, de comment on en est arrivé là et de toutes les étapes qu'il y a eu pour arriver là. Il y aura une version un peu plus soft et une version pour les plus courageux. Et puis, il y aura aussi des débats. Et, il y aura un film qui sera diffusé, qui sera certainement qui fera le lien entre féminisme et Palestine. Et il y aura un débat qui sera organisé. On attend encore la confirmation des intervenants, mais a priori, ce serait avec Decolonizer, qui est une association belgo-israélienne, enfin, belge d'Israéliens qui ont quitté Israël et qui travaillent justement sur le thème de la colonisation de peuplement. Et avec Omar Salamanca, qui lui est un chercheur palestinien qui travaille ici à l'UCL, il me semble, en tout cas dans une université belge, sur le thème justement, qui a beaucoup travaillé sur le thème du colonialisme, de la colonisation et de, voilà, de comment ça s'est développé. Donc on aura un débat entre ces deux personnes.
Mmh. Ben voilà, ça nous donne un peu la couleur.
Tout à fait, oui. Parce qu'on le rappelle aussi, donc, le festival Esperanza qui aura lieu le dernier week-end du juillet du... j'ai oublié les dates, tiens.
De 26 à 29.
Merci, Sarah. Exactement. Parce que oui, festival dit plein de musique, plein de concerts, mais pas que. Parce qu'au sein même du festival Esperanza se déroule un autre festival. Tu as mentionné le Village des Possibles tout à l'heure. Donc le Village des Possibles, c'est vraiment un microcosme qui aborde... avec une trentaine, on va dire, d'associations, une thématique un peu plus écologique, politique et sociale, dont ABP, merci Manon d'avoir été présente avec nous ce matin, dont ABP sera tout à fait là, avec ce que tu viens de nous décrire. Et aurais-tu peut-être, d'ici là, un peu un mot de la fin, ou un petit mot de, pour nos éditeurs, auditrices?
Continuons la lutte, c'est pas fini, et ce ne sera pas fini non plus après l'obtention d'un cessez-le-feu. Donc soyons des citoyens et citoyennes unis pour un monde meilleur. Et comme Guterres le disait, c'est l'humanité qui est en jeu. C'est pas simplement une question de... Enfin, c'est l'humanité qui est en jeu.
Bien, merci à toi encore une dernière fois. On se le rappelle, donc ABP sera présente au Village des Possibles, ainsi que Radio Esperanza. Donc n'hésitez pas à venir voir toutes les associations. Il y aura de l'info, il y aura du fun. Notre studio mobile vous attend. Est-ce qu'autour de moi, y a-t-il encore quelque chose à ajouter?
Juste une petite perspective du futur. difficile. Hein.
C'est difficile. On a tellement espéré de cesser le feu ces dernières semaines. Plusieurs fois, il y a eu des désespoirs. La perspective, c'est un cesser le feu, c'est la reconstruction de Gaza. Et c'est... Bon, je vais pas rentrer dans les débats d'un État, deux États, etc. Mais c'est que tout le monde vive en tout cas en sécurité, en dignité. Et que les bombes cessent de pleuvoir, en tout cas. Que chacun mange à sa faim.
Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Merci d'être ici. Et on se revoit en Esperanza, alors.
Avec plaisir.